Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Salut.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 30 novembre, un Canu Info encore confiné, mais de plus en plus déterminé.
Et déterminé à l'international, où on vous parlera de la plus grande grève de toute l'histoire de l'humanité qui se passe en ce moment même en Inde, avant de revenir sur les manifs au Guatemala.
Au national, on parlera d'abord de la mobilisation massive et offensive qui a lieu contre la loi Sécurité Globale, avant d'aborder la question du Conseil d'État qui invalide un des piliers de la réforme de l'assurance chômage.
Et au local, on vous propose ce soir une petite trilogie de reportages, à la fois sur le rassemblement contre les violences sexistes qui a eu lieu mercredi dernier, un retour sur la manif pour la fermeture des centres de rétention administrative, et une petite plongée dans le nouveau local autogéré de QCE.
Et vous les attendiez impatiemment, les voici, les voilà, c'est les brèves.
Seulement 3 policiers mis en examen pour le tabassage du producteur noir à Paris. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez vite la voir. Certes, le tabassage a eu lieu en petits groupes pendant 5 minutes à l'intérieur du studio, mais ils sont bien une dizaine ensuite dehors à participer ou contempler silencieusement leurs collègues, voire même à surveiller les alentours pour eux, puisque le tabassage s'est terminé lorsque l'un d'eux a remarqué les téléphones filmant la scène. Le gouvernement essaie d'en faire un exemple, bien obligé, pour faire passer sa loi sécuritaire. Fait rare, les policiers sont même poursuivis pour faux en écriture publique, pour leurs mensonges évidents, après comparaison de leurs dépositions et des faits filmés, notamment le fait que le producteur les aurait frappés, ce qui n'arrive à aucun moment sur la scène filmée entièrement par des téléphones de voisins et par une caméra de surveillance à l'intérieur. N'oublions pas que les mensonges dans les dépositions de flics sont monnaie courante et que même lorsque leurs mensonges sont prouvés, il n'y a pas de poursuite. C'est bien le buzz de cette vidéo qui a permis ce chef d'inculpation. Soulignons aussi que ce ne sont pas des journalistes qui ont tourné ces vidéos et ce n'est donc pas uniquement eux qui devraient avoir le droit de filmer et diffuser des images de la police. Au contraire, en faire un privilège réservé à une élite mènerait aux mêmes dérives. D'autres violences policières pour rappeler que ce n'est pas l'exception. En une semaine, il y a aussi eu l'expulsion extrêmement violente d'un camp de migrants installé place de la République à Paris. Le seul crime de ces migrants est de ne pas avoir voulu cacher leur misère. Et samedi aussi, lors de la marche des solidarités à Paris toujours, c'est un reporter d'origine syrienne qui couvrait la manifestation et qui s'est pris un coup de matraque qui lui a ouvert l'arcade sourcilière, et ça pour avoir pris des photos. Les flics décidément toujours en avance sur la loi. Une femme de 42 ans vient d'être condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son conjoint violent en 2016, alors qu'alcoolisé, il menaçait de lui faire subir des violences qui n'étaient pas nouvelles. La femme a déclaré mieux dormir en prison qu'avec lui, arguant qu'au moins on ne la frappait plus et qu'elle ne subissait plus d'agressions sexuelles. Triste constat que pour les conjoints d'hommes violents, il n'y ait que deux alternatives, subir ou la prison. Le dernier confinement a d'ailleurs entraîné une hausse de 30% des plaintes pour violences domestiques. Et pour finir, même en pleine crise sanitaire, en France, on continue de cacher tout problème sous le tapis et on continue à enfermer. 1150 nouveaux détenus pour le mois d'octobre et toujours un taux d'occupation pouvant atteindre 200% comme à La Roche-sur-Yon en Vendée.
International.
À l'international, on parlera des grèves en Inde et des manifestations au Guatemala.
Un gouvernement de plus en plus autoritaire, nationaliste et islamophobe, des décisions sanitaires irresponsables et une casse du droit du travail à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Et non, nous n'allons pas vous parler de la France à l'international, mais bien de l'Inde. En effet, l'une des plus importantes grèves de toute l'histoire de l'humanité a eu lieu ces derniers jours en Inde, puisque depuis le 26 novembre, ce sont près de 25 crorés, soit près de 200 millions de travailleurs et de travailleuses, qui s'opposent frontalement à la politique néolibérale du gouvernement Modi. Ce gouvernement a en effet approuvé 4 codes du travail qui remplacent les 3 précédents jusqu'alors en vigueur, soit des réglementations qui permettent aux employeurs et aux gouvernements d'augmenter la charge de travail, de contraindre encore davantage l'obtention de salaires équitables, de licencier plus facilement des travailleurs, de réduire la couverture d'assurance maladie et de rendre plus difficile la création de syndicats. Du classique, quoi. Une attaque d'une violence inouïe contre le camp des travailleurs indiens et qui se déroule dans un contexte d'augmentation du chômage et d'une hausse des prix des denrées alimentaires de base où les classes ouvrières et agricoles indiennes sont encore plus vulnérables. L'économie indienne a en effet connu une chute de près de 24% de son PIB au cours du trimestre entre avril et les juin. Et le FMI, dans un rapport publié en octobre, estime que d'ici la fin de l'année, ce sont près de 40 millions d'Indiennes et d'Indiens supplémentaires qui se retrouveront dans une pauvreté extrême. Soit une pauvreté qui est définie comme le fait de survivre avec moins de 1,60€ par jour. Si même le FMI le dit, en même temps, il dit ça, mais c'est aussi pour mieux justifier un nouveau plan d'austérité et d'ajustement structurel, comme on dit dans le milieu. Le gouvernement indien a d'ailleurs prévu de nationaliser un grand nombre d'entreprises publiques dans le pays très prochainement. De privatiser. Cette grève a en tout cas provoqué des arrêts de travail dans les banques, les services financiers, les transports, les unités sidérurgiques, les ports et les quais, les services de télécommunication, les plantations, les unités de production d'électricité, les mines, les unités de production de pétrole et de gaz naturel. Les employés des bureaux gouvernementaux, des chemins de fer, des services postaux et télégraphiques ont également organisé des manifestations de solidarité. Et pour vous donner un dernier exemple, plusieurs femmes qui travaillent comme ouvrières, aides, travailleuses de la santé, cuisinières de repas de midi, et plus généralement toutes celles employées dans d'autres programmes gérés par le gouvernement, se sont également mises en grève. Les revendications de toutes ces travailleuses et travailleurs incluent des mesures d'aide immédiates, 10 kilos de nourriture pour les familles dans le besoin, la nourriture d'une aide d'urgence aux secteurs les plus démunis de la population, le renforcement du système de distribution publique, le retrait des nouveaux codes du travail et des 3 lois agricoles qui ouvrent les portes encore un peu plus à l'agrobusiness. En outre, les travailleurs revendiquent des changements plus structurels de l'économie indienne et une remise en cause du capitalisme à la sauce indienne. L'allocation de 5% du PIB à l'éducation, de 6% du PIB pour la santé. Les agriculteurs réclament quant à eux depuis des années des meilleurs prix pour leurs produits. Ils attendent donc que l'exécutif annonce des prix minimaux de soutien sur la base de la recommandation faite il y a 16 ans par la Commission nationale des agriculteurs et l'élimination globale de la dette des travailleurs ruraux. De quoi remettre largement en cause le capitalisme indien, largement soutenu par la France, qui n'hésite pas à signer des contrats d'armement avec le gouvernement Modi. Ici et ailleurs, vive la lutte des travailleurs et des travailleuses contre le capitalisme.
On continue à l'international avec un sujet sur les manifestations au Guatemala.
Il aura fallu un week-end de manifestations déterminées et un parlement en feu pour faire reculer le gouvernement de droite guatémaltèque sur sa politique budgétaire. En effet, samedi 21 novembre, des manifestations massives ont éclaté au Guatemala suite au vote du budget 2021 qui privilégie les intérêts du secteur privé. Ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont rassemblées samedi dans le centre de la capitale guatémaltèque devant le siège du gouvernement pour contester l'administration conservatrice du président Diamatei. En fin de journée, alors que la manif tournait à l'émeute, le Parlement, dont la façade était constellée de tags anti-gouvernementaux, a été incendié. Le bilan répressif de la journée est lourd, une quarantaine d'interpellations et deux personnes éborgnées. Après une deuxième manifestation dimanche, le lendemain, victoire. Les élus ont suspendu lundi l'approbation du projet de budget de l'État pour 2021. S'élevant à 11 milliards d'euros, celui-ci aurait été financé par la dette publique et aurait dû servir à augmenter les moyens alloués aux entreprises privées, mais sans aucune contrepartie pour les secteurs publics. Plus profondément, cette mobilisation atteste d'une colère populaire contre ce qu'on nomme là-bas le pacte des corrompus. Car le Guatemala est un pays miné par la violence et la corruption, où 9 anciens présidents font l'objet d'accusations, de poursuites ou sont sous le coup de peine d'incarcération. Les exécutions extrajudiciaires y sont courantes et les structures militaro-mafieuses proches du narcotrafic sont là-bas organisées en forces politiques qui s'emparent des plus hautes fonctions de l'État. Il s'agit d'une véritable capture de l'État par des organisations militaro-mafieuses. À cette situation, elle est le résultat direct de 30 années de dictature et de conflits armés qui ont ravagé le pays pendant 36 ans, de 1960 à 1996. Et la faiblesse institutionnelle du pays, depuis la soi-disant transition démocratique entre 1996 et 2000, sous le gouvernement d'Alvaro Arzu, eh bien cette faiblesse institutionnelle, elle tient avant tout au pouvoir pris par les CIACs. C'est quoi les CIACs ? Eh bien ce sont les corps illégaux et appareils clandestins de sécurité qui ont pris le contrôle de l'État depuis la fin du conflit armé. Ce sont des groupements d'anciens militaires et d'anciens officiers du renseignement qui ont semé la terreur après la dictature, pour éviter la mise en place d'une justice transitionnelle effective pour les victimes des crimes de guerre. À coup d'assassinat de dirigeants d'organisations qui militaient pour le retour à la démocratie, les CIACs ont mis en place une corruption structurelle au sein de l'État. Et même si en 2007, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, la CIZIG, s'est montée à la suite d'un accord entre l'État du Guatemala et l'ONU, et malgré cette commission, ces moyens ont été bien insuffisants et n'ont pas pu résoudre le problème de la corruption. Pour donner une idée de l'ampleur qu'elle a, la corruption, l'affaire de la Linea, des lignes téléphoniques, qui a éclaté en 2015, est symptomatique. Elle met au jour un schéma de fraude aux douanes qui a été mis en place par le Parti Patriote du président de l'époque, le général Molina, alors au pouvoir. Pendant la dictature, ce général était à la tête du groupe contre-insurrectionnel qui contrôlait la plupart des douanes du pays. Et ce poste lui a permis plus tard, dans les années 90, d'intégrer une organisation de falsification à grande échelle des documents fiscaux des douanes. On estime que le réseau de Molina a accaparé 450 marchés publics et il aurait fait perdre l'équivalent de 280 000 euros par semaine aux contribuables guatémaltèques. De plus, il faut dire que la mobilisation qui a eu le week-end dernier, elle s'inscrit dans un contexte de crise économique qui a été amplifié par la pandémie, mais aussi par les ouragans Eta et Iota qui ont provoqué 60 morts et détruit les récoltes dont dépendent beaucoup de familles guatémaltèques. Dans un pays de 17 millions d'habitants, où 60% quasiment de la population vit sous le seuil de pauvreté et où la malnutrition infantile concerne presque la moitié des enfants de moins de 5 ans, ces colères ont un sens particulier. Bref, le recul du gouvernement sur la question du budget et l'ampleur des manifestations menées par la jeunesse surtout confirme la séquence de luttes ouvertes en Amérique latine, à la suite du Chili, de l'Équateur, de la Bolivie, du Pérou et de la Colombie, qui contestent tous l'héritage néolibéral mis en place.
Et en écho à ce qui se passe en Inde, on écoute tout de suite un morceau de Bhat Singh et Delhi Sultanate qui est issu du projet World Sound on Power qui a été mené en Inde ces dernières années.
Living in these modern days again, modern day India behave like slaves again. Sometimes I wish we could bring it back to way back when, like 1857, make them fist raise again. Delhi Sultanate alongside Bant, on the rhythm and I get militant. How long am I keep my people ignorant? Can you see corruption around pants? How much money did my finance Swiss bank days? How much money did my finance Swiss bank dance? All you are the people them think tank. Music are the people them think tank. One day don't make the shotgun pump, cause one day don't make the shotgun pump. Cause one day don't make the shotgun pump, 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 pump.
Oh, Tartar come this.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous avez écouté le Canu Info du lundi et on vient d'entendre la chanson de Bouncing et Daily Sultanate, une chanson qui s'appelle Modern Day Slavery. On avait oublié de se le préciser, mais voilà, c'est les aléas du direct. Et on passe tout de suite au...
National.
Et au National, on verra que le Conseil d'État a invalidé l'un des piliers de la réforme de l'assurance chômage, avant de revenir plus longuement sur la mobilisation massive et l'offensive contre la loi Sécurité Globale.
Une bonne nouvelle cette semaine, donc à la suite d'un recours des syndicats CGT, Solidaires, FO et la CFE-CGC, le Conseil d'État a retoqué une partie de la réforme de l'assurance chômage, donc qui a été imposée par décret en juillet 2019 par le gouvernement. On a déjà parlé plusieurs fois de cette réforme, en fait elle va mettre dans la misère une grande majorité des chômeurs, puisqu'elle prévoit principalement donc, de rallonger la durée minimum de travail pour ouvrir des droits au chômage. Donc on passe de 4 mois dans les 24 derniers mois à 6 mois dans les 24 derniers mois pour pouvoir ouvrir des droits au chômage. Et aussi, il y a une modification du mode de calcul du salaire journalier de référence à partir duquel est calculée l'allocation. Donc au lieu de prendre en compte uniquement la période travaillée, on va prendre en compte l'intégralité de la période, incluant les journaux travaillés, pour calculer ce salaire journalier de référence. Donc pour donner un exemple, si quelqu'un a travaillé 6 mois d'affilée, à la sortie des 6 mois, il va ouvrir des droits au chômage en tenant compte du salaire qu'il a gagné chaque mois. Par contre, si quelqu'un travaille 6 mois avec plusieurs CDD sur une période d'un an, et ben en fait on va prendre en compte le salaire qu'il a gagné pendant ces 6 mois et le diviser par 12 mois. Donc il va avoir des allocations 2 fois plus basses que la personne dont on a parlé au début qui a fait 6 mois de travail continu. C'est donc tout à fait injuste et ça va surtout aboutir à ce que tout un tas de personnes se retrouvent avec des allocations chômage de misère. Et donc, le Conseil d'État a quand même annulé ce nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence en considérant que ça provoquerait une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Puisqu'il note bien donc que ça pourra varier du simple au quadruple pour le montant de l'allocation chômage entre différents allocataires. Donc c'est évidemment une première victoire contre cette réforme et la CGT et les syndicats en général appellent à amplifier la lutte pour obtenir l'annulation totale de cette réforme et il y a notamment une journée d'action prévue le 5 décembre contre cette réforme de l'assurance chômage dont la mise en œuvre a été reportée au 1er avril 2021, la mise en application par la période d'urgence sanitaire.
Et pendant ce temps-là, la mobilisation contre la loi sécurité globale se fait de plus en plus massive et offensive.
Plus de 300 000 personnes ont manifesté dans toute la France contre la loi sécurité globale samedi dernier. Une mobilisation massive malgré la situation sanitaire qui franchit un cap déterminant dans le rapport de force enclenché depuis le mardi 17 novembre. Cette fois-ci, la possibilité que le gouvernement recule est dans toutes les têtes. Enfin, le cran d'arrêt à la dérive sécuritaire et liberticide qui dure depuis l'instrumentalisation de l'attentat contre Samuel Paty semble à portée de main et de voix. Et il est temps, il est vraiment temps que ça s'arrête, car les événements autoritaires et racistes s'enchaînent à une vitesse alarmante. Après la surenchère islamophobe portée par la loi sur le séparatisme, les deux évacuations violentes des réfugiés à Paris, la répression des blocages lycéens ou encore les violences subies par différents reporters dont Rémi Buisine, on peut au moins espérer que la suite de la mobilisation va empêcher que les flics puissent bénéficier des avantages liés à la loi sécurité globale. Dans les rues de Paris, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Lille et de Strasbourg, la composition sociale du mouvement était large, assez large. On y voyait des familles de victimes de violences policières, surtout à Paris, des habitants des quartiers populaires, mais aussi des journalistes en passant par des lycéens, des avocats, des syndicats et des collectifs de sans-papiers. Et si la contestation s'était d'abord cristallisée au début du mouvement autour de l'article 24 de la loi sécurité globale qui stipule l'interdiction de filmer les forces de l'ordre, elle semble désormais porter plus largement sur l'ensemble de l'institution policière. Surtout après la diffusion des images du tabassage de Michel Zecler la semaine dernière qui ont fait l'effet d'un déclencheur avec plus de 20 millions de vues. Toute proportion gardée, le processus de mobilisation et de massification du mouvement ressemble un peu à la dynamique enclenchée aux États-Unis après la mort de George Floyd. La pression est forte pour Macron, qui pourrait bien voir son règne se fissurer. Ce n'est plus seulement les premiers et les premières concernés ou les militants qui descendent dans la rue pour dénoncer les violences policières. C'est toute une partie de toute une partie de l'opinion publique qui a basculé, y compris une partie de la presse et des associations de défense des droits humains, et le tout dans un contexte où les dissociations internes à LREM fragilisent la majorité. Alors bien sûr, ce type de consensus provisoire de la part de la société civile apporte son lot d'hypocrisie, de revirements et d'ambiguïté. Les mots d'ordre principaux portés n'exigent pas encore l'abolition de la police et la remise en cause d'une justice punitive dans son ensemble et de manière structurelle. Mais pourtant, le tournant sécuritaire du gouvernement est tout de même mis à mal. L'impunité de la police pose problème à beaucoup de gens, c'est une réalité. La combativité des manifestants était au rendez-vous samedi dernier. Barricades, pétards, feux d'artifice, pavés et même quelques cocktails Molotov ont vu le jour. Reste qu'aucune réponse n'a encore été apportée par Macron aux revendications des manifestants et des manifestantes. Il s'agira alors de garder la même offensivité dans les jours qui viennent, tout en organisant une réelle stratégie à la base pour faire plier Macron. Donc, rendez-vous dans la rue mardi prochain à 18h, place des Terreaux à Lyon.
Local.
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 Et enfin, au local, nous aurons trois reportages, le premier étant sur le rassemblement contre les violences sexistes du 25 novembre. Puis nous aurons un reportage sur les manifestations qui sont déroulées samedi dernier à Lyon, à savoir la manifestation pour la fermeture des centres de rétention administrative et celle pour l'abandon du projet de loi dite de sécurité globale. Et enfin, nous aurons un reportage sur l'ouverture d'un nouveau local à QC.
Nous sommes le 25 novembre 2020.
Nous en sommes à 87 féminicides.
Alors, on est place Charpennes, du coup, à l'initiative du collectif Droits des Femmes, donc qui rassemble pas mal d'associations féministes, syndicats et partis politiques qui ont décidé d'organiser pour le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, deux rassemblements. Il y en a eu un samedi et aujourd'hui, c'était place Charpennes, et plutôt pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles au travail.
Quelle société, quelle démocratie peut accepter de voir 220 000 femmes chaque année subir les violences de leurs partenaires ou ex-partenaires? Cela ne peut plus durer. Nous devons nous regarder, nous découvrir des milliers. C'est le temps de la colère, de notre colère.
Porte.
Nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère. Nous voulons que le numéro 3919, porté par une association spécialisée et féministe, ne soit pas ouvert à la concurrence via un marché public.
Marion, je suis au planning familial et au collectif Droits des Femmes. Donc le 3919, c'est un numéro pour toutes les violences. Donc il est anonyme, gratuit. Il apparaît pas sur les factures, on le sait pas assez. Du coup, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que du coup, si un auteur contrôle la facture, eh ben, on verra pas qu'on a appelé le 3919. Il est géré par une association féministe depuis de nombreuses années et c'est un premier appel, une première écoute dont peuvent bénéficier les femmes victimes de violences. Et surtout, c'est des relais, c'est-à-dire que si les femmes qui appellent veulent des relais d'associations locales, en fait, le 3919 donne les coordonnées d'associations locales. Et il se trouve que le gouvernement a décidé de le privatiser en ouvrant au marché public. L'association, en fait, était financée avec des subventions pour gérer le numéro 3919. Là, maintenant, elles vont devoir monter un gros dossier de marché public qui sont des gros dossiers pour les associations parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Par contre, il y a plein d'autres boîtes qui ont compris qu'on pouvait se faire de l'argent sur les violences faites aux femmes, qui ont, eux, les moyens logistiques pour répondre aux appels au marché public, qui vont pouvoir répondre et obtenir le marché.
Allez, on nous dit de se taire et de rester polis. Mais on reste des terres pour buter Polanski. On nous dit de se taire et de rester polis. Anti-patriarcat.
Les violences de genre s'inscrivent dans un contexte social et culturel où le corps des femmes est la cible de multiples injonctions. Cette année, nous avons vu des collégiennes et lycéennes accusées de perturber les garçons à part leur tenue insuffisamment républicaine. Nous avons vu également des femmes insultées, agressées et cyberharcelées parce qu'elles portaient un voile.
Libre avortement ou alors ça va péter.
Ça va péter.
Ça va péter.
Tout est à nous.
Rien n'est à nous.
Les atteintes aux droits des femmes à disposer de leur corps participent à ces violences. Régression du droit à l'IVG en Pologne, aux États-Unis, en Hongrie. Stérilisation forcée de femmes ouïghours en Chine, de migrantes latino-américaines aux États-Unis. En France, la loi va ouvrir l'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes, mais maintient de la discrimination envers les personnes trans. Nous souhaitons faire entendre nos voix et que ces violences cessent.
Bonjour, donc moi je suis Sandrine, je suis membre de la commission exécutive de l'Union départementale CGT 69.
C'est un rassemblement féministe devant un McDo. Tu peux nous expliquer pourquoi ça se passe devant le McDo ?
Donc on a choisi un McDonald's parce qu'il y a eu des enquêtes de fait cette année par différents journaux, entre autres Mediapart et Street Press, qui ont relaté donc des témoignages de salariées féminines au sein de différents restaurants de McDo. Évoquant effectivement des comportements sexistes, voire des agressions sexuelles pour certaines d'entre elles, et entre autres avec un collectif qui s'est mobilisé sur le sujet, qui s'appelle le collectif MacDroit. Il y avait le port de la jupe, par exemple, qui était obligatoire pour les salariées féminines dans un certain nombre de restaurants McDonald's. Et grâce à la mobilisation de ce collectif MacDroit, il a été demandé au directeur des McDonald's, en tout cas d'Île-de-France pour l'instant, d'arrêter, d'obliger le port de la jupe.
L'exemple à ne pas suivre de cette entreprise est un exemple parmi tant d'autres. 80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 30% de harcèlement sexuel, 10% de viol ou tentative de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. 70% des victimes disent ne pas en avoir parlé à leur supérieur. Quand elles l'ont fait, 40% d'entre elles estiment que le règlement leur a été défavorable. Elles ont été mutées, placardisées, voire licenciées. À l'échelle internationale, après 5 ans de mobilisation, la CGT, avec la Confédération syndicale internationale, a gagné l'adoption d'une norme OIT contraignante contre les violences sexistes et sexuelles. Nous exigeons sa ratification en France pour qu'elle soit appliquée, pour que des mesures soient mises en place sur tous les lieux de travail et que de nouveaux droits soient acquis. Pour lutter contre ces violences et protéger les victimes, la CGT propose entre autres la protection des victimes et de leurs droits au travail, mise en place d'un lieu d'accueil et d'une procédure de signalement garantissant la confidentialité et la rapidité de réponse. Ce sont les agresseurs qui doivent être suspendus puis sanctionnés. Pour les victimes de violences conjugales, le droit à des absences rémunérées, à la mutation, au changement de poste, à la réduction ou à la réorganisation du travail, l'interdiction du licenciement.
Aujourd'hui, ce sont encore les femmes qui se retrouvent en première ligne de la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Dans les hôpitaux, où la pression n'a jamais été aussi forte et où les risques de mort n'ont jamais été aussi élevés. Dans les écoles et établissements scolaires, où aucun moyen n'est donné pour que les protocoles sanitaires soient assurés et les personnels protégés, alors que des milliards d'euros sont alloués dans le privé pour, je cite, « relancer l'économie ».
Femmes sans papiers en France, la première forme de violence que nous subissons est linguistique et verbale, réduite à des sans-papiers. Notre violence, violence administrative. Cette situation nous expose, dans le cas d'un contrôle policier, à l'arrestation des centres de rétention, parfois même avec nos enfants. À défaut d'un titre de séjour, les femmes sans papiers n'ont jamais accès au marché de l'emploi tel qu'il est organisé par la loi, mais plutôt aux emplois, en majorité des cas non déclarés, avec des rouages d'exploitation et des abus. Nous subissons les abus des patrons voyous. Nous dénonçons cette forme de violence économique qui fragilise et met en danger la santé physique et mentale des femmes sans papiers. Le pire, c'est qu'il y a parmi nous celles qui n'ont pas un accès aux soins. Nouvelle restriction pour bénéficier de la carte aide médicale de l'État.
Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier.
Qui ont décroché une promesse d'embauche, la constitution d'un dossier pour la demande de la carte de séjour salarié nous expose à une dépendance à l'égard de l'employeur, donc à une exploitation qui ne finit qu'au jour de l'obtention de la carte séjour. La circulaire Valls limite l'accès au titre de séjour mention vie privée et familiale. Aux femmes sans papiers, mères d'enfants, scolarisées en France depuis au moins 3 ans et ou bien conjointes d'un Français ou résident. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la continuité de la vie commune avec le conjoint. Ceci entrave l'indépendance des femmes et favorise des abus, l'exploitation, les chantages, incapable pour se défendre en cas de violence et les expose suite au divorce ou décès à la clandestinité. Nous, femmes sans papiers vivant en France depuis de longues années, avons tissé des liens et créé des réseaux de connaissances professionnelles, associatives, de voisinage et amicales. Mais à défaut de liens matrimoniaux et maternelle, la circulaire Valls nous exclut du droit à la carte de séjour mention vie privée et familiale. De là, le combat des femmes sans papier s'inscrit dans la perspective de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre pour reconnaître et dénoncer toute violence faite aux femmes.
Merci. Merci. Au travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Travail logistique, travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui ça profite. Cet emploi-service, c'est un vrai supplice, nous laisse à la botte du capitalisme. Cet emploi-service, c'est un vrai supplice, nous laisse à la botte du capitalisme. Écoutez, Bruno Sabo, écoutez, grondez notre colère. Écoutez, Bruno Sabo, on en a marre, on se met en grève. L'administration est un vrai calvaire, pour les personnes trans et les non-binaires. L'administration est un vrai calvaire, pour les personnes trans et les non-binaires. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot, le plus vieux métier, mais son droit social. Travailleuse du sexe, c'est un vrai boulot, le plus vieux métier, mais son droit social. Écoutez, Bruno Sabo, écoutez, grondez notre colère. Écoutez, Bruno Sabo, on en a marre, on se met en grève. Écoutez nos revendications, on prend la rue pour donner ton. Écoutez nos revendications, ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation. Ce sera la dernière sommation.
Et maintenant une petite pause musicale avec le morceau Rebel Girl du groupe de punk Bikini Kill, un groupe de punk américain des années 90. Toujours sur le Canu Info du lundi 30 novembre et vous venez d'écouter le groupe Bikini Kill et son morceau Rebel Girl. Tout de suite, un reportage sur la manifestation qui a eu lieu pour la fermeture des centres de rétention administratifs.
Samedi à 14h ont lieu deux manifestations. La première pour la fermeture des centres de rétention est partie de Forum Réfugiés. et la deuxième pour l'abandon de la loi de sécurité globale, partait de la place des Bétéraux. Petit retour. Rassemblant quelques 200 personnes, la manifestation pour la fermeture des CRA s'est déroulée dans le plus grand calme, s'arrêtant devant la police aux frontières, puis devant le tribunal.
Vous le direz, les bureaux, je ne suis pas du tout les bureaux, c'est le local de la PAF, la police aux frontières. La police aux frontières, c'est une branche de la police nationale, c'est le bras armé de l'État dans la criminalisation et la répression des sans-papiers. La PAF, elle a plusieurs fonctions, elle joue plusieurs rôles. C'est celle qui arrête les sans-papiers dans les zones frontalières, par exemple, ou dans les lieux de transit, dans les gares, surtout. C'est celle qui fait la chasse aux sans-papiers. Mais la PAF, c'est aussi celle qui gère les centres de rétention et qui est à l'intérieur des centres de rétention. La PAF, en fait, c'est des flics, mais c'est aussi des matons. À l'intérieur des CRA, ils sont responsables de beaucoup de violences, de beaucoup de tabassages, d'intimidations psychologiques, verbales, tout ça sur un fond de racisme assumé. Cette situation, c'est pas que à Lyon, c'est pareil dans tous les CRA en France. Et là-bas, les CRA, là-bas, c'est les frontières.
Depuis le début de la crise sanitaire et jusqu'à ce jour-là, nous, les demandeurs de papier lyonnais, en galère, en souffre dans cette période sensible. Malgré cette marche et rassemblement organisé par le CSP 69, coordonné avec le collectif Soutien et avec d'autres associations et organismes syndicaux pour faire entendre nos voix, problèmes et nos besoins, l'État n'a pas répondu. Ils ne n'ont même pas parlé ou discuté de ce sujet. Ils n'ont fait aucune attention. Alors que la vie quotidienne de la majorité des sans-papiers devient pire qu'avant la pandémie. Plusieurs domaines et secteurs d'activité tournent au ralenti ou sont mis à l'arrêt, ce qui a aggravé beaucoup plus la situation pour plusieurs d'entre nous. C'est un cauchemar. Alors, on n'a pas de ressources fixes, pas de travail, alors pas d'argent. Et on est exclu de toute aide publique parce que on n'existe plus administrativement. Et le travail existe seulement dans le secteur informel. Du coup, on ne bénéficie pas de chômage partiel. Comme vous savez, les personnes sans papier n'ont pas le droit à l'aide sociale. Si on ne bosse pas, on ne survit qu'avec l'aide de colis alimentaires, de dons en vêtements, un matériel fourni par des associations ou des personnes solidaires. Car c'est grave, si on ne donne pas le droit au logement et les soins nécessaires à ces gens-là, on augmente la circulation de virus. La peur de sortir chez soi, quand on a la chance d'avoir un chez soi, surtout où il y a un déploiement énorme de forces de l'ordre dans l'espace public, des polices partout. La peur permanente d'être contrôlé à n'importe quel moment, à chaque point de rue ou dans des transports en commun, car tout déplacement engendre le risque d'être contrôlé et donc arrêté. Nous demandons l'égalité, la liberté et les papiers.
Seul. Il fait partie d'un système dont la justice est actrice à part entière. Le système CRA s'assure qu'il n'existe aucune faille qui permette aux personnes étrangères de s'en sortir. Un des éléments majeurs de ce système est l'appareil judiciaire qui légitime légalement la criminalisation des personnes et leur répression. Lorsqu'une personne est arrêtée par la police et qu'elle est considérée en situation irrégulière, elle est enfermée dans les locaux de la police aux frontières, la PAF. Le ou la préfète peut alors décider de son emprisonnement en CRA pour 48 heures et organiser sa déportation sans même passer devant un tribunal. Le cadre juridique permet donc d'enfermer une sans-papiers pendant 48 heures suite à un simple contrôle d'identité. le maintien irrégulier sur le sol français est effectivement considéré comme un crime légitimant en lui-même l'enfermement instantané, sans même qu'un passage devant un tribunal soit nécessaire. La loi Asile et Immigration, portée par Gérard Collomb, a renforcé le système CRA. Elle a doublé la durée maximale d'enfermement en la faisant passer de 45 à 90 jours et accroît la possibilité d'expulsion sans décision de justice. La déportation étant pensée comme un objectif à atteindre, il n'existe aucun moyen légal de le remettre en cause. Le quotidien des prisonnières est marqué par des passages réguliers au tribunal qui donnent un cadre de disciplinarisation aux détenus. Ils donnent l'illusion que quelque chose se joue lors de ces procès, alors même que l'obligation de quitter le territoire français au QPF donne à l'État et aux administrations et à la justice la possibilité de se débarrasser des étrangères. Les micro-procès de prolongation s'enchaînent ainsi sans offrir d'issue, soit en retourne au CRA, soit en sort pour être enfermé à son domicile avec obligation de rendre des comptes à la police, soit en sort du CRA avec l'obligation de quitter le territoire au plus vite. Le rôle de la justice est toujours d'enfermer dans les prisons pour étrangères, le plus souvent ou dans les alentours de la résidence sous surveillance policière quotidienne. La justice punit et fait payer aux sans-papierisés le fait de vivre sur le territoire en les enfermant au CRA. Elle les condamne donc à la fin au refus des soins et au shootage par le corps médical, aux mains sadiques de la PAF, aux violences psychologiques de l'enfermement. La justice légalise ainsi la torture, l'isolement et les violences inhérentes au système CRA. Elle leur fait bien comprendre que c'est elle qui décide ce qu'elle fait d'elle et d'eux, et dans l'espace et dans le temps, en les maintenant dans cette incertitude inhérente à la répression du système CRA. Sous couvert de droit, les juges, les avocates de la préfecture et de la défense et les greffières organisent l'enfermement, la torture et les déportations des étrangères. La lutte au soutien aux sans-papiers n'a rien à réclamer à la justice, puisque c'est elle qui les criminalise et les réprime.
Pour avoir plus d'informations et poursuivre les luttes des sans-papiers, vous pouvez aller voir la page Facebook du CSP69 ainsi que la page Anticra Lyon. Pour rappel, que ce soit en période de crise sanitaire ou pas, les centres de rétention sont des prisons racistes qui n'ont pas lieu d'être. Alors que la manifestation contre les CRA arrivait à la préfecture, elle a rejoint le cortège contre la loi de sécurité globale sous un nuage de lacrymogène, marquant le ton du reste de la journée. Cette fois, les manifestants se sont comptés en milliers. Malgré le semi-confinement et le souhait du gouvernement de nous voir tous enfermés chez nous en dehors de nos horaires de travail, il est hors de question de donner tous les droits à la police. Police qui en a déjà trop et qui en abuse déjà. Et donner tous les droits à la police, c'est donner tous les droits au gouvernement. Rappelons-le aussi, ce n'est pas seulement l'article 24 du projet de loi qui pose problème. Certes, il est hallucinant que malgré les preuves récurrentes, et notamment le dernier tabassage d'un producteur noir à Paris, tabassage qui n'a pris fin que lorsque les flics se sont rendus compte qu'ils étaient filmés, malgré ces preuves qu'il faut surveiller la police de très près, le gouvernement souhaite au contraire invisibiliser tous ces abus. Mais c'est toute la loi qui est problématique, et qui organise la surveillance et le fichage de la population, et en particulier des manifestants. On vous renvoie vers le site de la Quadrature du Net qui a décortiqué cette loi dans un article récent et dont on vous a déjà parlé.
Plus de 13 000 manifestants à Lyon aujourd'hui. Pour le retrait du projet de loi, pour la démission de
L'impunité policière ne pouvant que créer de la rage, la manifestation ne s'est pas déroulée dans le calme. Ce sont des pluies de bouteilles en verre qui se sont abattues sur les forces de l'ordre, au pont de la Guillotière notamment. La manifestation s'est ensuite divisée en plusieurs groupes, certains rejoignant la place Bellecour, d'autres restant devant les forces de l'ordre qui empêchaient tout accès à la rue de la République pour protéger la consommation. Il a fallu utiliser un canon à eau pour déloger les manifestants, alors même que de l'autre côté du pont, une rangée de policiers rabattait d'autres manifestants et empêchait la dispersion. Fin de manifestation chaotique, donc, dans une coordination étrange des forces de l'ordre. Vivement la prochaine.
« Et on part tout de suite du centre de Lyon pour se rendre dans l'est de Villeurbanne, plus précisément dans le quartier de Cusset, où un collectif qui réunit des habitantes et des habitants de ce quartier ont réquisitionné un bâtiment abandonné, rue de l'Égalité, au 4-6 rue de l'Égalité, pour mettre en place une solidarité concrète et populaire avec les plus précaires et pour en faire un lieu de lutte et de soutien aux luttes sur le quartier. Voilà, c'était ce week-end et c'est un reportage de ce premier week-end dans ce lieu autogéré.
Là, on a cassé le mur. Et on est en train de mettre des gravats dans des sacs pour les amener à la déchetterie. C'était un mur de parpaing qui avait été construit pour, après que ça ait été squatté, pour empêcher les gens de re-squatter.
Squat toujours ! Squat toujours !
Donc ici, c'est un lieu qui se trouve dans le quartier de Cusset, rue de l'Égalité, à Villeurbanne. Il s'appelle originalement la Sandale du Pèlerin. Les personnes qui étaient là étaient des personnes en reconversion, qui faisaient donc des chaussures en bois. À l'étage, il y a une dizaine de chambres pour des habitations, une terrasse. Et en bas, du coup, il y a trois grands hangars, des espaces communs, des petites pièces. Voilà, donc c'est un lieu qui est hyper grand. Le collectif Cusset l'a récupéré il y a une semaine pour continuer ce qui avait été déjà organisé au printemps, c'est-à-dire des distributions alimentaires. On avait commencé fin mars, début avril, je crois. Et donc on les organisait deux fois par semaine, c'était le mardi et le vendredi. Et là, il y avait à peu près plus de 100 personnes, 130 personnes. Donc on a été assez vite débordés. Mais après, voilà, il a fallu qu'on revoie un petit peu l'organisation, parce que Covid, parce que distance, etc. Mais c'était des personnes qui revenaient régulièrement, deux fois par semaine, qu'on s'est connus, on a appris à faire ensemble. On avait différents plans de récup, que ce soit Marché Rouge à Vaulx-en-Velin, que ce soit dans les collègues dans les supermarchés, récup dans les supermarchés, différentes associations. Et donc on récupérait nourriture et produits secs et produits d'hygiène pour à peu près une centaine de personnes, voire un petit peu plus. La première idée qui nous est venue en place, c'était vraiment d'apporter cette aide alimentaire, puisque c'était le premier confinement et qu'il y avait énormément de personnes, que ce soit dans les camps aux alentours ou personnes précaires qui avaient beaucoup moins accès à alimentation ou produits d'hygiène. Du coup, c'était aussi les choses les plus faciles pour nous à récupérer d'une manière gratuite. Et là, on a envie de continuer parce qu'on on se rend bien compte, là où en plus on est situé, au fin fond de Villeurbanne, qu'il y a un vrai besoin. Tout le collectif Solidarité Cusset, on est extrêmement content d'avoir pu investir ce lieu. Ça nous permet de mettre en place tout ce qu'on avait envie de créer. Là, aujourd'hui, on ne pouvait plus avoir d'espace prêté, puisque les deux espaces nous avaient été prêtés pour suivre leur activité normalement. Et là, on est dans un endroit bien, bien plus grand. Donc, on est très content. Du coup, dans ce lieu, on a envie de faire participer les habitants. Et là, comme on a beaucoup d'espace, c'est aussi faire des cantines, une épicerie solidaire et gratuite qu'on pourra installer d'une manière pérenne. Donc pour ça, on a besoin d'étagères. Dans un des grands hangars, on peut faire des ateliers divers et variés, comme proposer des activités de self-défense, du sport, de la danse. Là, ces deux jours, en fait, on a demandé en fait aux personnes, aux riverains, de proposer également des idées. Donc, il y avait également de créer un lieu avec des ordinateurs pour travailler sur le numérique, un lavomatique. Donc, on a besoin de machines à laver et c'est le fait de faire des cantines aussi. On a vraiment envie de partager un moment festif solidaire avec les personnes qui seront là.
Pour tout le monde, les crêpes, non ? Pour tout le monde, c'est pour toi.
Ils ont pas de truc à donner, donc elle m'a dit, je passe tout dans la semaine.
Bravo.
Delphine, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Il y avait un petit dilemme, c'est la première fois que la manif, il faut venir ici. Et bon, du coup, on s'est réparti les tâches. On a été, c'est principalement à travers les réseaux sociaux, hein, Facebook, là, qu'on a eu l'info il y a une semaine à peu près, de l'ouverture de ce collectif. On connaissait déjà celui de la Guillotière. Et on est passé en fait en voiture l'autre jour et on s'est dit que ce serait sympa de venir faire un petit tour. On avait pas mal de petites choses à donner aussi. Et puis la dynamique aussi dans laquelle ils s'engagent, c'est-à-dire d'essayer d'investir beaucoup les gens qui viennent dans le lieu, en leur proposant de venir avec leur propre projet, etc. Elle est très engageante pour nous et attrayante, quoi. Ça donne envie de s'investir parce que la cause le vaut, quoi. Nous, on s'était dit que cette année, pourquoi pas essayer de s'investir autre part. Et apparemment, il y a une petite terrasse en haut. Donc si on peut faire des bas corps sol et mettre quelques petits plans pour que tout le monde en profite, ça peut être très cool. Donc on vient en proposant cette idée, par exemple, mais ça peut être autre chose. On est ouvert à tout. Venez tous, quoi. Venez voir ce lieu de vie absolument génial. Et je pense qu'en créant du lien entre nous tous, c'est comme ça aussi qu'on arrivera à franchir un peu toutes les barrières que nous impose la société en ce moment.
On a commencé par l'électricité. On a mis une petite électricité. On a besoin, il manque des pièces pour mettre l'électricité partout dans les lieux. On a offert des portes. Parce que ça fermait avec du métal l'extérieur. Du coup, on a découpé tout ça. On a offert une porte. On a changé des sirops. On a mis l'électricité et l'eau. C'est trop bien. C'est vraiment un truc génial parce qu'on a vraiment un collectif et tout le monde il travaille et tout le monde il participe par rapport à l'idée, par rapport au travail. Du coup, c'est génial. C'est trop bien. On espère que ça va commencer comme ça. On reste comme ça pour aider les gens, pour faire quelque chose pour tout le monde.
L'idée, c'est de faire avec tous les gens qui veulent s'investir dans ce lieu, les habitants du quartier, ceux qui ont ouvert ce lieu, du collectif ou juste des gens de passage, de trouver un nom qui parle à tout le monde pour ce lieu-là, que ce soit pas juste une décision prise par le petit groupe qui a à l'instigation du truc. Donc voilà, c'était sympa que tout le monde donne un petit peu son idée. Le lieu en lui-même s'appelle la Sandale du Pèlerin. Donc voilà, ça fait un petit peu trop kato et tout ça. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait plein de jeux de mots à faire avec les pieds, les chaussures, tout ça. Et donc, les idées proposées, on a la chausse commune, le pied d'égalité, la coordonnerie, la sandale du peuple, le pied de biche, l'île égalité, le pied au cusset, espace communal de Cusset, mais bon, apparemment, c'est déjà un peu pris, donc voilà. Le godillot, la tatane, la savate et l'égalité. Voilà.
Toi, t'as une préférence ?
Ah mince. Moi, j'aime bien la chose commune, mais en voyant écrit l'île égalité, donc île comme une île déserte et plus loin égalité, ça fait un joli jeu de mots et c'est super beau quand c'est écrit comme ça. Du coup, je pense un petit peu plus pour celui-là, finalement. Voilà.
Et voilà, tout ça, c'était ce week-end. Et c'est finalement l'île Égalité qui a été choisie pour baptiser ce nouveau lieu autogéré. Et vous pouvez vous y rendre quand vous voulez. Il y a des travaux toute la semaine. Et le samedi prochain, il y a encore un accueil des habitantes et des habitants du quartier. Et le collectif a aussi monté un appel à dons que vous pourrez retrouver notamment sur leur Facebook du collectif Solidarité Cusset, ainsi qu'une cagnotte à l'adresse www.cotisup.com/solidaritécusset, solidarité au pluriel. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite à l'agenda de la semaine.
À l'agenda, vous pouvez dès demain rejoindre le rassemblement des assistants d'éducation qui font grève et demandent de meilleures conditions de travail, notamment en ces temps de crise sanitaire où leur travail est particulièrement impacté. Le rassemblement aura lieu de 14h à 16h devant le rectorat. Mercredi, il y a toujours les collectes solidaires à la Plume Noire, à la librairie La Plume Noire, dans les pentes de la Croix-Rousse. Jeudi ensuite, manifestation à l'appel des établissements de santé et de l'action sociale, qu'ils soient publics ou privés, de France ou d'outre-mer. La manifestation partira de l'ARS et ira vers la préfecture et ses rendez-vous à 14h. Et puis, il y aura certainement une autre manifestation le week-end prochain contre le projet de loi de sécurité globale. Restez informés.
Et à l'agenda aussi, on vous donne rendez-vous samedi 5 décembre à 18h30 devant le McDo Place Bellecour pour soutenir la grève des livreurs qui organise une action nationale.
Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.